Je voudrais, frères et sœurs, ce matin, vous inviter à faire avec moi une lecture dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 17. J'ai eu à cœur ce matin de vous parler de l'humilité. Et nous allons introduire cette méditation, Ézéchiel chapitre 17 au verset 24e. Ézéchiel 17, 24. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Amen. J'ai abaissé et j'ai élevé. Alors, il y a bien sûr ici, frères et sœurs, une image prophétique qui est liée au Seigneur Jésus. Et il nous faut, avec ce texte, faire un lien avec ce qui est écrit dans le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, au verset 7, « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Alléluia. Donc, il y a, une fois de plus, là, l'image de Jésus, notre Sauveur, qui s'est abaissé, qui s'est dépouillé, comme la Bible dit, qui a pris la forme d'un simple homme, il a pris la forme du serviteur, mais celui qui s'est abaissé, Dieu l'a élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais nous avons, frères et sœurs, dans ce texte, et j'aurais pu bien évidemment choisir d'autres, mais vous allez voir au travers des exemples bibliques que je vais vous donner ce matin qu'il y a bien des domaines dans lesquels nous pouvons nous arrêter sur ce thème. Il y a un principe. Vous savez, frères et sœurs, trop souvent, quand les chrétiens disent que Dieu ne change pas, c'est toujours dans un objet de bénédiction. Et je crois effectivement qu'aujourd'hui, le Seigneur bénit comme il bénit hier. Mais ça nous arrange bien, quelquefois, de dire que Dieu ne change pas dans le domaine de la bénédiction. Mais j'ai quand même envie de vous dire que ce que Dieu n'aimait pas hier, il ne l'aime pas plus aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas. Et ce que Dieu aimait hier, il l'aime aujourd'hui. Donc, il faut que nous ne nous arrêtions pas seulement dans cet aspect d'un Dieu qui ne change pas, seulement quand il va être question de la puissance, de la bénédiction, de la guérison, mais ce Dieu qui ne change pas, c'est un Dieu qui ne renie pas sa parole. Il ne renie pas ce qu'il a dit, il ne renie pas ce qui est écrit. Et là, nous avons un principe biblique, c'est une méthode de Dieu, c'est une stratégie divine et qui est complètement à l'opposé de ce qui se passe dans notre monde. Parce que l'homme va chercher ce qui est élevé. Et l'homme naturel va chercher à s'élever. Mais Dieu porte ses regards sur ce qui est humble. Dieu porte ses regards sur les simples. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose qui ne correspond pas à notre nature humaine. Jésus, il est allé vers les pauvres, il est allé vers les petits, il est allé vers ceux qui étaient rejetés. Et ça, ce n'est pas dans la nature humaine. La nature humaine va toujours chercher comme une valorisation. Regardez l'enfant qui ne supporte pas d'être un enfant. alors vous allez avoir un petit bout de chou haut comme ça et qui va jouer avec son père à celui qui est le plus fort. Je me trompe ou pas? Mais qui va être capable de penser sincèrement qu'il est plus fort que son père. J'en ai connu chez moi qui ont joué à ça. Ils ont regretté. Parce que le poids, ça joue aussi. Encore aujourd'hui, sans faire aucun effort, si je m'assois sur quelqu'un, c'est dans la nature de l'homme. C'est dans la nature de l'homme. Notre monde, c'est un monde de compétition. Et je pense que vous avez remarqué que pour gagner, certains sont capables de marcher les uns sur les autres, d'écraser l'autre, etc. La parole de Dieu, elle, va nous enseigner l'humilité. Et on va retrouver cela à bien des époques différentes. Alors, pour les frères et sœurs de Ponto de Mer, vous connaissez ma prédication. Je me suis arrêté sur l'homme qui certainement a coupé le plus d'arbres dans la Bible. Vous savez qui c'est? Il me semble que c'est Noé. Parce que j'ai quand même envie de vous dire que pour construire l'arche, il a fallu qu'il en débite du bois. Alors quand on voit aujourd'hui, avec les moyens modernes que nous avons, ce que c'est que le travail du bois, permettez-moi de vous dire qu'avec sa hache à l'époque, peut-être sa scie, oui, Daniel en est bien content, tant mieux pour lui, tant pis pour nous, mais dites donc. Mais je me suis dit, au temps de Noé, il y avait de beaux arbres, de grands arbres, mais pour que ces arbres deviennent un moyen de salut au travers de l'arche, il a fallu qu'ils soient abattus. Et tant que ces arbres magnifiques n'ont pas été abattus, ils n'ont pu en aucune manière être un moyen de salut. Et c'est une fois que ces arbres majestueux vont avoir été abattus, dépouillés, réduits en poutres et en planches, c'est là qu'ils vont devenir utiles entre les mains de Dieu comme moyen de salut pour tous les hommes. Et vous savez qu'il y a aussi un arbre qui a dû être abattu pour devenir moyen de salut. C'est la croix. C'est la croix. Quand je pense aux eaux de Marat, c'est bien un bois qui, entre les mains de Dieu, est devenu moyen de salut pour la purification de ces eaux qui n'étaient pas potables et qui étaient amères. Et il a fallu que cet arbre, il pousse, et pour qu'il devienne un bois, il a fallu qu'il soit abattu. Frères et sœurs, écoutez-moi, et je vous le dis de la part du Seigneur, ces arbres n'ont été utiles qu'une fois qu'ils ont été abattus. Alors, je me souviens de l'époque où je savais tout. Et voyez-vous, plus j'avance, plus j'ai l'impression de plus rien savoir. D'avoir tellement et tellement à découvrir. Je me souviens, et je ne m'en vante pas, mais d'une époque où il y avait dans ma vie un certain orgueil et un orgueil certain. Et puis Dieu s'est occupé de moi. Parce que pour que je sois utile, il ne pouvait rien faire avec moi tant que j'étais comme ça. Alors il s'est occupé de moi. Et il a abattu l'arbre. Et il en a fait des planches. Et il en a fait des allumettes. C'est plus petit qu'une planche. Mais il me semble que même l'allumette est d'une grande utilité. Oui ou non ? Alors, essayez d'allumer un feu avec une allumette et essayez d'allumer un feu avec un arbre debout. Comme quoi, mes chers frères et sœurs, nous avons parfois du mal à comprendre ce que David lui-même a vécu. Il disait, mais il a fallu que le Seigneur le brise, qu'il brise son orgueil pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Et il y a peu de temps, je méditais avec vous sur la vie de Joseph et sur les différentes épreuves que Joseph a traversées pour devenir un moyen de bénédiction. Alors ça, vous avez beaucoup apprécié, ça vous a fait beaucoup de bien, mais frères et sœurs, combien parmi nous vont considérer l'épreuve comme un moyen tout simple avec lequel le Seigneur est en train de travailler nos cœurs, de travailler nos vies, pour que nous puissions devenir entre ses mains assez simples pour qu'il puisse nous utiliser. Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin de conseils ? Ou est-ce que vous croyez que nous avons besoin des conseils de Dieu ? Ce n'est pas la même question, mais... Et combien de fois, sans même forcément que vous et moi nous en soyons conscients, ne sommes-nous pas en train de dire à Dieu, dans les prières que nous faisons monter vers lui, non seulement nous lui demandons des choses, mais en même temps lui expliquons comment est-ce qu'il faudrait qu'il fasse ? N'est-ce pas ? Et même pour nous, c'est ainsi. Nous pouvons vivre des situations où nous avons besoin d'être conduits par Dieu, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous conduise. Alors, plutôt que de simplement nous tenir devant Dieu, cherchant vraiment à être conduits par l'Esprit de Dieu en disant, « Seigneur, puisque la Bible dit tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, je ne sais pas comment tu peux me parler, mais j'ai besoin que tu me parles. Alors Seigneur, fais-le. » Et nous ? Nous allons dire à Dieu, « Seigneur, ce matin, parle-moi par une prophétie. » Ah, s'il pouvait y avoir une prophétie. Béni soit Dieu pour les prophéties. Mais j'aimerais quand même vous dire, le premier endroit où Dieu parle, c'est dans sa parole. Et il est capable de vous parler par sa parole, il est capable de vous parler par un don prophétique. Il est capable de vous parler par les circonstances de la vie, dans une discussion avec un frère ou une sœur, qui lui ne va pas réaliser ce qu'il est en train de vous dire pour vous, ce sont des réponses de Dieu, etc. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse et comment il faut qu'il le fasse. Je pourrais vous parler encore ce matin de Pharaon et des Israélites, de la grandeur de Pharaon, de sa puissance, de cet arbre qui s'élevait. Et quand aujourd'hui, encore, vous le savez bien, on considère ce que l'on appelle les merveilles de l'Égypte, je peux vous assurer que c'est impressionnant. Quelques-uns ici ont eu l'occasion d'y aller, moi j'y suis allé, c'est impressionnant. Il avait puissance de vie, de mort. Il était pour les siens considéré même comme un dieu. Mais quand on compare de l'autre côté les Israélites, c'était la misère, l'esclavage, la pauvreté, l'oppression, le désespoir. Et puis, il y a eu la main de Dieu qui a fait plier Pharaon. J'aborderai ça un petit peu dimanche prochain, mais il a quand même fallu que la main de Dieu s'appesantisse pour faire plier Pharaon. Parce que il n'a pas plié comme ça. Hein. Mais même son armée a été vaincue, brisée par une autre armée plus puissante. Des esclaves, ils n'avaient rien. Il a dû les laisser partir. Mes frères et sœurs, quand on voit la main de Dieu qui conduit les choses, il est où, le grand Pharaon? Il est anéanti. Son armée, elle est anéantie. Parfois, nous sommes impressionnés à cause de notre regard qui souvent manque de foi, à cause des défis qui sont en face de nous, de nos faibles moyens. Mes frères et sœurs, notre Dieu est puissant. Et vous savez, les grands, les puissants, ils sont là aujourd'hui, mais j'aimerais vous dire, le jour où Dieu aura décidé de faire plier Kim Jong-un, je souhaiterais que ce soit le plus rapidement possible à cause des chrétiens qui souffrent là-bas, mais j'aimerais vous dire, il pliera. Même si en Corée du Nord, on enseigne que c'est un dieu, et que c'est lui qui fait lever et coucher le soleil le matin et le soir. Eh oui, mais le jour où Dieu aura décrété que ce sera l'heure pour la Corée du Nord, moi je vous dis, ce sera l'heure pour la Corée du Nord, Kim Jong-un ou pas. Parce que malgré notre foi ou notre manque de foi, Dieu, lui, il agit. Et les plans de Dieu, ils s'accomplissent. Je pourrais, dans le même esprit, vous parler de David comparé à Goliath. Il est si grand, il est si fort, il paraît invincible, il est redouté par l'armée tout entière. Et en face de lui, de l'autre côté, vous avez celui qui, aux yeux de tous, paraît être un gamin. Oui. Ce gamin, il va dans la rivière. Il va choisir 5 pierres. Et avec une seule. celui sur le regard duquel les hommes ne se seraient pas posés. Souvenez-vous du choix de Samuel, quand il a vu ses frères, il dit, oh, certainement, c'est celui-là que le Seigneur a choisi. Puis, le regard de Dieu, le regard de Dieu se pose sur ce qui est humble, sur ce qui est petit. Moi, je bénis Dieu quand Dieu appelle des jeunes. Quand Dieu se sert des jeunes, parce qu'il ne peut plus rien faire avec les vieux. C'est différent de la mentalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que vous êtes vieux, on veut vous mettre dehors. Le pouvoir aux jeunes, ça n'a rien à voir avec cela. Ça, c'est les jeunes orgueilleux. Non, mais l'insignifiant, celui que les gens n'auraient pas choisi, sur lequel le regard des hommes ne se serait pas posé, c'est sur lui que le regard de Dieu s'est posé. Les moyens de Dieu, comparer la fronde avec les pierres de David et l'armure de Saül, qui était bien trop grande, bien trop lourde pour le jeune David. Mais est-ce que Goliath est tombé, oui ou non ? Cet arbre majestueux qui s'était élevé et qui méprisait jour après jour le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, le voilà par terre, avec les moyens de Dieu, qui ne sont pas les moyens des hommes. Et voilà Goliath qui est vaincu. Gloire à Dieu. Je pourrais encore vous parler d'Aman et de Mardochée. Voilà encore un arbre gigantesque, un souverain. Alors lui, c'était un souverain aussi, le plus grand de tous les princes perses, qui recevait l'hommage de tout le peuple. À côté, vous aviez Mardochée. Mardochée, c'est l'opposé. Mardochée, c'est un arbre insignifiant, c'est une brindille. C'est un pauvre juif, sans aucune valeur, sans aucun pouvoir, sans aucune autorité. Mais cet arbre qui s'était élevé, Dieu va le couper. L'arbre qui s'élevait, je l'ai abaissé, dira Dieu. Et figurez-vous que c'est à un arbre que va finir Aman. Ben oui. Pendu. Et Mardochée, il va finir avec un vêtement royal sur les épaules. Celui que le monde n'aurait pas choisi, celui qui était méprisé. Celui-là, le Seigneur va l'élever. Alors, bien évidemment, et je vous le disais tout à l'heure en introduction, et ma prédication ne serait pas une vraie prédication si je ne parlais pas de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi ? J'ai quand même envie de vous dire que c'est important. J'ai assisté un jour à une inhumation dans une de nos églises où le pasteur a prêché pendant 30 minutes. Et j'ai entendu pour la première fois le nom de Jésus au bout de la 26e minute. Ça fait drôle. Moi qui dis toujours, il faut se servir de ces occasions-là pour prêcher Jésus, pour annoncer l'Évangile. Alors, frères et sœurs, permettez-moi bien évidemment de vous parler de Jésus. Qui n'a pas paru comme les Juifs aurait pensé qu'il allait paraître. Ils attendaient un roi, et c'est un roi qui est venu. Mais ce roi, la Bible nous dit, il a paru comme un simple homme. Et ce n'est pas comme ça qu'ils l'attendaient. Les Juifs attendaient un arbre qui s'élève, et ce que Dieu leur a envoyé, c'est un arbre qui a été abaissé. Jésus, c'est tout le contraire de ce que les Juifs attendaient. Pourtant, ils avaient le livre du prophète Ésaïe. Vous savez qu'il y a un chapitre que les Juifs ne lisent jamais. Eh oui, ils ne lisent jamais le chapitre 53 d'Ésaïe. Pourtant, il est bien mentionné qu'il était comme une faible plante. Oh, à tous ceux qui cherchent une place à être élevés, moi je prêche Jésus, une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Il n'avait rien pour attirer le regard. C'est comme ça qu'on devrait pouvoir regarder un chrétien ou une chrétienne. Moi, je dis que nous sommes tous appelés à ressembler au Seigneur Jésus. Et que les gens, plutôt que de passer du temps à discuter tout un tas de trucs, de toute façon, les gens vont finir par faire ce qu'ils ont envie de faire. Le mieux, c'est de plonger nos regards dans la parole de Dieu et de chercher à être comme Jésus, qui n'avait rien pour attirer le regard. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez aussi bien votre pasteur que ça, mais vous savez, quand Noël arrive, ils vendent des super cravates à Noël. Puis moi, j'en ai vu une belle comme ça, avec un Père Noël sur la cravate, puis il y avait un nez rouge qui clignotait. Oh, connaissez votre pasteur, hein, moi j'ai le boyau de la rigolade, alors je voyais la cravate, je dis, oh quand même. Alors, puis après je me dis, vous imaginez si je me pointe prêcher à Noël sur l'estrade avec une cravate comme ça. Je ne pourrais pas dire qu'il n'y a rien pour attirer le regard. On est d'accord? Vous allez voir que ça. Donc, bah voilà. C'est tout. Bon, si je viens aussi avec un short et des baskets le dimanche matin, si vous me trouvez chez moi comme ça en train de tondre la pelouse, vous allez dire c'est normal. Enfin, j'espère, hein. Si vous me voyez comme ça dans l'église, je ne pourrais pas dire qu'il n'y aurait rien pour attirer le regard. Et moi, je suis pleinement convaincu que, en tant que chrétien, qui que nous soyons, mais c'est une façon de vivre. C'est ça que la parole de Dieu appelle, de l'humilité, de la simplicité, etc. C'est de faire en sorte que dans nos paroles, dans nos attitudes, dans notre façon même de nous habiller, etc., mais qu'il n'y a rien pour attirer le regard, qu'on soit l'image de Jésus, que nous sachions rester des hommes et des femmes simples, humbles, à l'image de Jésus. Et j'ai envie de vous dire, mais l'Église doit être à cette image-là. Nos cantiques, nos chants doivent être à cette image-là, etc. Et le drame, c'est quand on a perdu ça. Parce que quand on a perdu ça, on a perdu Jésus. Et toute la parole de Dieu, elle est là pour nous rappeler, pour nous montrer que le regard de Dieu, s'est toujours posé, mais non pas sur les grands, mais au contraire, sur ceux qui étaient tout en bas. Et la parole de Dieu, elle nous le rappelle, et le Seigneur nous le redit ce matin, mais il a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Et là encore, il y a toute cette confiance dans le Seigneur et dans la puissance du Saint-Esprit qui qualifie aujourd'hui. Ce qui est important, ce n'est pas de chercher des dons humains, des gens élevés, parce que tellement ils ont une tête grosse comme ça, ils savent tout faire, etc. Mais ce n'est pas ça dont l'Église a besoin. L'Église a besoin de gens simples, de gens qui soient capables de se confier dans le Seigneur. Pas des gens avec une tête grosse comme ça qui savent tout. Les gens qui, plus ils avancent avec le Seigneur, sont capables de dire, Seigneur, comme j'ai besoin de toi. Comme j'ai besoin de toi. Et vous savez, frères et sœurs, le jour où le Seigneur vous a abaissé, vous n'avez plus envie d'être élevé. Vous n'avez plus envie. Parce qu'il y a une telle bénédiction à vivre dans l'ombre du Seigneur. D'ailleurs, si je reprends l'image que l'on a chantée ce matin dans ce cantique, vous savez, quand on est sous les ailes du Seigneur, on ne voit plus que la poule. Vrai ou pas? Vous avez vu ça? Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez que moi je connais la campagne, hein, je veux dire, mais il y a des fois, vous avez une poule, et là, et puis, les gens qui ont l'habitude savent que quand vous soulevez l'aile, vous allez dire, « Ouais, dis donc, il y en a du monde là-dessous !» Ce sont les chrétiens. Ce n'est pas des vedettes, on ne les voit pas. Ils sont cachés dans le Seigneur. Et moi, je dis, l'Église, c'est ça. Vous n'êtes pas cachés sous mes ailes à moi. Hein. On va voir que moi. Hein. Vous êtes cachés sous les ailes du Seigneur, on est bien d'accord. Moi, je suis avec vous dessous. Eh oui. Et j'ai quand même envie de vous dire, qu'est-ce qu'on est bien. J'espère qu'au milieu de nous, il n'y a pas quelqu'un qui a envie de faire le coq. C'est moi le plus beau. Ouh, mais vous savez que vous avez des gens qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Hein? Moi, je me dis, le Seigneur s'en occupera. Il s'est bien occupé de moi. Il n'y a aucune raison qu'il ne s'occupe pas des autres. Alors, je voudrais quand même vous rappeler qui étaient les apôtres. Hein ? Jésus n'est pas allé chercher les grands et les savants de son époque. Il est allé chercher des hommes simples, comme lui-même était simple. Mais ces gens simples, quand ils ont été à l'école de Jésus, et quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, moi je me dis, avec des gens simples, le Seigneur est quand même capable de faire un sacré travail. Hein. Vous savez ce qui a perdu Saül ? C'est l'orgueil. Et quand le Seigneur va lui parler, il va lui dire, mais lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu étais encore un gars simple, quand tu ne t'étais pas laissé prendre par ton orgueil, etc., ben voilà, là, je pouvais faire quelque chose avec toi, mais maintenant, le Seigneur ne pouvait plus rien faire. Frères et sœurs, quand on regarde ceux qui ont été des pionniers dans nos églises, moi, je bénis Dieu pour ces hommes qui étaient des hommes simples. On ne peut plus simple, mais rempli du Saint-Esprit, là où le Seigneur les a envoyés, ils ont mis le feu. Ils n'étaient pas des arbres majestueux, ils étaient des allumettes. Amen pour les allumettes. Parce qu'un petit feu, ça peut faire devenir un grand feu. Frères et sœurs, Je suis convaincu qu'en écoutant ce matin ce message, tout le monde est humble et tout le monde est simple, il n'y a pas de problème. L'orgueilleux, c'est toujours l'autre. Néanmoins, laissons le Seigneur nous interpeller par sa parole. Afin que nous sachions rester humbles devant Dieu. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est pas compliqué, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu, avec ton Seigneur. Et si on ne se souvient pas de toi, du moment qu'on se souvient du Seigneur Jésus, amen. C'est ça qui est important. Que le Seigneur nous garde de l'orgueil. Qu'il nous garde de nous croire quelqu'un. Qu'il nous garde de penser que nous sommes capables d'eux. Mais que nous soyons toujours sous les ailes du Seigneur, réalisant que c'est de lui dont nous dépendons, dont nous avons besoin. Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça ne fait pas beaucoup de choses, ça. Ce qui fait que cette humilité, c'est dire, de toute façon, Seigneur, je pourrais être couvert des talents de la terre. En fait, je ne peux rien faire. Je ne suis rien et je ne peux rien. En fait, la seule chose que je peux faire, c'est me confier en celui qui peut tout. C'est me confier dans la personne du Seigneur Jésus. Et vous savez, mes chers frères et sœurs, quand on est conscient de sa faiblesse, quand on est conscient qu'on n'est pas ce grand arbre majestueux que nous avons rêvé d'être, et quand parfois on réalise qu'on est fragile, qu'il faudrait parfois pas grand-chose pour nous mettre par terre. Vous n'avez pas dit amen, mais j'ai vu quand même des têtes qui faisaient un peu ça. Je sais ce que ça veut dire. Vous savez, frères et sœurs, la gloire du chrétien, c'est la croix. C'est la croix. Et c'est toujours là où le Seigneur nous attendra. Celui qui est au Seigneur, c'est quelqu'un qui se souvient de ce que Dieu a dit. Tu es poussière. Voilà, je suis désolé de vous décevoir. En fait, il ne faudrait pas que je dise ça parce que je ne suis pas désolé du tout. Mais nous ne sommes que de la poussière. Un coup de vent arrive, on est où? On n'est plus là. C'est ça la vie des hommes. Que le Seigneur nous garde, c'est ma prière pour nous ce matin, que le Seigneur nous garde de tout orgueil. Que le Seigneur nous garde de nous croire supérieurs à quelqu'un d'autre, mais que dans sa bonté, dans sa grâce, le Seigneur nous garde dans l'humilité, dans la simplicité. J'ai envie de vous dire qu'il nous laisse à notre place. Et surtout que nous le laissions lui à la sienne. Et je crois que nous irons de l'avant, que l'Église ira de l'avant, parce que c'est comme ça que nous permettrons au Seigneur d'agir dans nos cœurs et dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse.